Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey au micro de Canal M. Ce sont les paractualités en ce 6 décembre 2016. Alors aujourd'hui, les titres, 6 ordres professionnels demandent un appel sur l'aide à mourir. Fermeture d'un CHSLD à Montréal, 140 lits de moins pour les aînés en perte d'autonomie. À Alma, un nouvel outil pour les jeunes atteints de déficience intellectuelle. Et à Victoriaville, Victo Ville Inclusive, on a remis 2 prix d'excellence. Également à l'émission, à Ottawa, bientôt plus d'espace au Chéo pour les enfants ayant des besoins spéciaux et attention aux parasites qui peuvent vous dévorer l'œil. Oui, ça existe. Également 2 entrevues aujourd'hui avec Morgane Laveau, co-créateur du coussin Gaspard. On va vous raconter ce que c'est. Et Isabelle Mollier, j'espère que je prononce bien son nom, je lui demanderai, coordonnatrice de l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement. Les ordres professionnels des médecins, pharmaciens, infirmières, avocats, notaires et travailleurs sociaux pressent en bloc la ministre de la Justice du Québec de renvoyer prestement la loi fédérale sur l'aide à mourir en cour d'appel, en raison de l'insécurité juridique et de la confusion dans les pratiques générées par la cohabitation des lois fédérales et provinciales. Ces ordres demandent des actions rapides et une rencontre avec la ministre. Dans une lettre commune envoyée à la ministre Stéphanie Vallée et au ministre de la Santé Gaëtan Barrette, ces ordres professionnels décrivent la confusion qui continue de régner plus de 6 mois après l'adoption de la loi fédérale. Nous sommes vivement préoccupés par la confusion des normes qui encadrent l'aide à mourir au Québec, est-il écrit dans la lettre obtenue par Le Devoir. Évoquant les 2 lois adoptées après l'arrêt Carter de la Cour suprême qui avait adopté une position beaucoup moins restrictive à l'égard de l'aide à mourir, les 6 ordres estiment que ces 3 événements ont donné naissance à une série de normes qui ne sont pas toujours conciliables, notamment sur les critères d'accès à l'aide à mourir. Depuis l'adoption de la loi fédérale, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre provincial de la Santé, Gaëtan Barrette, ont refusé catégoriquement de demander à un tribunal de haute instance le soin de statuer sur la comptabilité de cette loi avec l'arrêt Carter. Le ministre Barrette a même envoyé une directive en juillet dernier aux établissements de santé, rappelant que la nouvelle loi instaurait un délai de 10 jours avant d'autoriser une demande d'aide à mourir, et ce, bien que la loi québécoise n'en prévoit aucun. C'était un texte tiré de l'article d'Isabelle Paré ce matin, en ce 6 décembre. Également, la fermeture d'un CHSLD à Montréal, 140 lits de moins pour les aînés en perte d'autonomie, et ça, ce sera d'ici 2018, écrit Ariane Lacourcière dans la presse. Le centre d'hébergement et de soins de longue durée de Louvain, dans le nord de Montréal, fermera ses portes. L'établissement de 140 places est trop vétuste, selon l'administration. Cette fermeture survient alors que plus de 3 500 personnes âgées sont en attente d'une place en CHSLD au Québec, dont 1 000 à Montréal. Ces personnes en attente d'une place en CHSLD sont en très lourde perte d'autonomie. Où iront-elles? Au lieu de créer de nouvelles places, le gouvernement en ferme. C'est illogique, dénonce le président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux, Jeff Begley. Mais il n'y a pas qu'à Montréal qu'on manque de lits et de places en région. Tenez, dans le Bas-Saint-Laurent, 16 personnes attendent une place. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 42. À Québec, 437. Mauricie, centre du Québec, 51. En Estrie, 188. Donc à Montréal, 1011 personnes, dont 157 au CIUS du nord de l'île de Montréal, en Outaouais, 103 personnes, etc., etc. Donc la liste d'attente s'allonge un petit peu partout dans nos régions, ici, dans la province de Québec. Il y en a comme ça qui ont des bonnes idées après avoir vécu des mauvaises aventures, et c'est le cas de Morgane Laveau. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous dites Morgan?
Morgane.
Morgane, d'accord. Excusez-moi, mais comme il n'y avait pas de E, je n'étais pas sûre. Monsieur Lavaux, vous avez subi un terrible accident de sport il y a quelques années qui vous a contraint parce que vous êtes devenu tétraplégique et oui. Vous avez passé quoi, à peu près 4 ans, je crois, entre un lit d'hôpital et un fauteuil roulant. C'est bien ça?
C'est ça, oui.
Est-ce que vous êtes encore en fauteuil roulant ou est-ce que vous avez retrouvé, est-ce que vous êtes tétraplégique à vie?
Alors, je suis tétraplégique à vie parce que c'est une obligation, c'est ouais. Le corps médical qui me juge ainsi. Maintenant, j'ai bien progressé dans ma pathologie et j'alterne entre maintenant un fauteuil roulant et des béquilles.
Ah d'accord, voilà, ouais. Bon. Et alors, cette triste expérience, par exemple, vous a fait comprendre bien des choses et vous a fait vivre bien des douleurs, notamment une douleur qu'on a tendance à oublier mais qui est terrible, qui est celle de l'escarre.
Oui, oui. Dans l'esprit, on a... Alors moi, je n'ai pas subi ce problème-là, mais je l'ai constaté. En centre de rééducation, par ailleurs, j'ai pu voir que beaucoup de mes collègues revenaient après être repassés par chez eux en centre de rééducation pour traiter différentes pathologies, dont l'escarre, mais pas que, par rapport à un mauvais positionnement dans un fauteuil roulant un dysfonctionnement du coussin qui se veut, lui, être normalement un coussin anti-escarre.
Écoutez, je vais me faire le porte-parole de peut-être de gens qui ignorent ce qu'est un escarre. Pourriez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît,
oui.
Morgane?
Alors, une escarre...
Pardon, excusez-moi.
Oui, une escarre, c'est une nécrose, en fait, d'une partie de peau qui est souvent liée à une perte de sensibilité parce que les tétraplégiques, comme moi, ou paraplégiques, ne sentent pas forcément tous leurs appuis. Ils sont généralement centrés sur le sacrum ou sur des points d'appui quand on est alité. Nous, on vient vraiment essayer de traiter alors la problématique au niveau de l'assise.
Voilà.
Et donc, c'est une nécrose des tissus qui fait qu'à terme, vous avez la peau qui devient pourrie qui se nécrose. Et donc,
C'est ça. Et qu'on retrouve donc beaucoup, entre autres, chez les gens malades, alités ou les personnes handicapées qui sont assises, quoi. C'est bien ça.
Exactement, oui.
Et alors donc, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et là, vous avez créé, allez hop, un tapis intelligent. C'est vrai que non, vous savez, ici on parle de téléphone intelligent, même si en France on appelle ça un smartphone. Là, ici, on parle vraiment de téléphone intelligent. Et là, vous nous avez créé un tapis intelligent. Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, dans l'idée, on vient positionner sous le coussin anti-escarre de la personne en fauteuil roulant une nappe de capteurs qui vient contrôler différents points de pression. Oui. Et grâce au smartphone ou au téléphone intelligent, on arrive à retransmettre les informations au patient, mais d'une façon simple, c'est-à-dire qu'avec différents graphiques et puis différentes alertes, on arrive à générer pour le patient certaines alertes qui permettent de considérer ce qu'il se passe sous ses fesses. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre pour ceux qui ont toute leur sensibilité,
bien sûr.
Mais c'est des points importants pour des personnes qui ne sentent rien.
Exactement, qui ne sentent rien, qui ne se rend pas compte que c'est en train de se nécroser finalement.
Exactement, oui.
Et vous avez créé ça, comment vous avez, à un moment donné, vous avez réfléchi à ça et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment ça vous est venu?
Tout d'abord, nous, avec mon associé à l'hôpital, on a créé une petite start-up, comme on appelle ça, qui nous a permis de faire un premier projet pour emmagasiner des compétences, d'abord dans la gestion des projets et dans la création des produits. Et il y avait toujours en tâche de fond ce projet d'emmener de l'intelligence dans un fauteuil. Alors, on le limite là volontairement à l'escarre, mais pas que. C'est aussi un capteur de positionnement, donc de bon positionnement et de mauvais positionnement, pour, pourquoi pas, des futurs problèmes de dos, pour aussi motiver la personne à bouger dans son fauteuil. En gros, notre projet Gaspard, c'est le coach de la personne qui est en fauteuil roulant pour retrouver un petit peu de sportivité, de gamification aussi dans le projet. Donc,
et pourquoi Gaspard?
On humanise un petit peu le produit avec un prénom. On est attaché à plutôt des vieux prénoms, nous, dans ce qu'on fait dans nos produits. Et puis, une consonance un petit peu française. Donc, voilà.
D'accord. Ah oui, parce que donc vous avez... OK, alors, quels sont les autres produits que vous avez inventés?
Donc, en fait, en ce moment, on a un premier produit qu'on commercialise déjà qui s'appelle Hector.
J'aurais parié sur Octave.
Donc c'est Hector. Hector, c'est un petit cube multifonction qui se positionne dans différents endroits, dans la maison ou à l'extérieur, oui. donnant des informations de température, d'humidité, de pression atmosphérique.
Okay.
Et avec ça, on adresse différents marchés qui nous ont permis d'emmagasiner encore une fois de l'expérience et surtout un minimum de fonds pour pouvoir développer un deuxième projet à plus forte valeur ajoutée, Gaspard.
Eh bien, écoutez, on vous a connu grâce à un article dans le Figaro, Morgane Lavaux. Maintenant, ce qu'il faut espérer en ce qui concerne, entre autres, ce tapis-là, Gaspard, c'est qu'il soit commercialisé, mais non seulement en France, mais à l'international.
Ouais,
est-ce que c'est prévu?
On s'exporte là pour un salon qui est le CES de Las Vegas en janvier prochain.
Okay.
Donc on a gagné un concours en France pour partir avec Business France. Donc c'est un organisme qui nous permet de partir grâce à une organisation française.
Mm-hmm.
Et donc on expose sur le CES Las Vegas qui devrait nous donner une visibilité mondiale, mm-hmm. on l'espère, sur justement notre projet, parce que nous, on se cantonne pas, enfin, dans l'équipe, on se cantonne pas à la problématique française, c'est une problématique qui est internationale,
et
il faut la traiter, et il faut la valoriser, justement, ce petit tapis qu'on a essayé de créer, et c'est dans ce but-là, oui. Donc, on espère être disponible à l'international d'ici peu. On va voir ce que nous donne justement.
C'est tout à votre honneur, Morgane. Finalement, ce que ça prend, c'est juste un téléphone intelligent, quoi, pour la connexion.
Oui, exactement.
C'est tout.
Oui.
Ok. Bon. D'accord. Et vous pensez que ça pourrait se commercialiser à quel prix à peu près? Est-ce que vous l'avez calculé déjà?
Oui, enfin, c'est un petit peu en amont de tout cela, mais on vise vraiment moins de $250 le prix de vente.
Ok.
Il faut savoir qu'un coussin anti-escarre se vend, en France, dans les 250 à 300 euros.
Oui.
Ce qui fait qu'on se positionne vraiment sur quelque chose de comparable avec une intelligence plus importante et dans un but précis, c'est vraiment réduire les pathologies
Bien
qui peuvent
sûr.
Se déclarer en retour à domicile et surtout dans les fauteuils roulants.
Écoutez, Morgane Lavaux, je pense que ça prend beaucoup de gens comme vous autour de la planète pour faire avancer, pour offrir d'autres idées. Alors bravo pour Gaspard, pour Hector et pour le futur Octave et Jacqueline, à un moment donné, vous allez bien
Théo, devenir. Théo est aussi déjà sorti chez nous. On a deux produits, un autre qui s'appelle Théo aussi.
D'accord. Alors, je vous souhaite une belle journée. Puis, encore une fois, je suis très contente d'avoir pu présenter votre produit à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
À Alma, un nouvel outil pour les jeunes atteints de déficience intellectuelle. Nous avons pu trouver cette nouvelle par TVA Nouvelle, Louis Martineau, qui écrit « Le Centre régional de santé, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean et l'Office municipal d'habitation d'Alma ont mis sur pied un projet unique au Québec, un logement-école pour montrer à ces personnes comment se débrouiller seules. À 20 ans, Laurence Doré espère un jour pouvoir vivre seule dans son appartement et c'est pourquoi elle désirait suivre ce cours de 15 semaines. On se fie beaucoup à nos parents, dit-elle. J'étais contente de faire ce projet-là parce que je m'étais dit que ça allait me donner une chance de faire des choses sans ma mère. Cette formation vise les personnes déficientes et à besoins particuliers pour qu'elles apprennent à se débrouiller dans leur vie d'adulte. Alors signer un bail, faire un budget, faire la cuisine, effectuer l'entretien, établir de bonnes relations avec le voisinage, c'est ce que cette école de la vie leur enseigne. J'aime ça, choisir les couleurs. Je ne savais pas qu'il y avait des couleurs chaudes et des couleurs froides. Et bien maintenant, je le sait, souligne Laurence Doré. On fait une liste de tout ce qu'ils ont besoin en appartement. On la remet entre autres à Coderre Friperie. Ils se chargent de leur fournir tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de cet appartement. Ajoutez Monsieur Jean. Je veux juste au moins être capable de faire tout ce que tout le monde est capable de faire quand on s'en va en appartement, conclut Laurence. 5 étudiants forment cette première cohorte à Alma, je vous le rappelle. Mais si la demande le justifie, plus d'étudiants bien sûr pourraient être admis dans l'avenir. Ville inclusive, Victoriaville remet 2 prix d'excellence C'est en lien avec la Journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu le 3 décembre dernier que la ville de Victoriaville a procédé, nous dit Hélène Ruel de TC Média, à la remise de ces prix. Ces reconnaissances visent à souligner de façon concrète les efforts qu'un organisme ou une entreprise publique ou privée a réalisés dans l'aménagement de ses locaux et dans son offre de services afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation pour les personnes en situation de handicap. Pour cette 10e édition, le CCPAU, le Comité consultatif de la politique d'accessibilité universelle, a choisi de remettre deux prix d'excellence, l'un à l'entreprise Saman pour son engagement exceptionnel à l'intégration à l'emploi de personnes ayant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme au sein de l'organisation, et spécialement pour l'empressement de l'entreprise à poursuivre le projet d'intégration malgré les événements difficiles entraînant une relocalisation inattendue des installations. Et l'autre prix d'excellence est remis conjointement au CIUS MCQ Centre de réadaptation en déficience physique de Victoriaville et le Gym Maxiform pour souligner leur partenariat exemplaire ayant permis la mise en service d'équipements d'entraînement adaptés aux personnes handicapées au sein d'un gym inclusif. On va y aller directement. Il arrive comme ça, parce que je vous laisse l'hiver. Alors parfois, il y a des petites choses comme ça qui gèlent. Et là, je vois mon pauvre Jean-Sébastien qui appuie désespérément sur le bouton. Ça n'a aucune espèce d'importance. Isabelle, je n'ai pas eu le temps de vous demander si votre nom se prononce bien Molière.
Absolument.
Bon, alors je suis très contente. Alors je reçois Isabelle Molière. Isabelle, vous êtes coordonnatrice à l'Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement dont nous venons justement de parler avec cette nouvelle expérience à Alma. Ça s'appelle, l'acronyme c'est ABDITED.
Absolument.
C'est bien ça. Alors évidemment quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, et c'est votre cas, on vous remercie d'ailleurs de vous être déplacé en studio, on leur demande toujours qu'est-ce qu'est la mission exacte de cet organisme?
Bah déjà, merci de me recevoir.
Mais ça nous fait plaisir.
L'ABDITED, en fait, c'est une association de parents donc, qui ont des enfants qui ont une déficience intellectuelle ou et un trouble du spectre de l'autisme. Et notre mission de première, c'est la défense de droits et la promotion des intérêts.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que vous-même, vous êtes une maman avec un enfant? Non.
Non.
Non, c'est par... Qu'est-ce qui vous a amené là, Isabelle?
Déjà, je suis une personne qui travaille dans le communautaire depuis longtemps.
D'accord.
Je venais donc de France, où j'ai travaillé longtemps en psychiatrie avec des adolescents autistes, dans un projet pilote de milieu ouvert.
D'accord.
Donc, sans barreaux, sans clés, avec très peu de médication. Donc, j'avais envie de continuer un peu dans cette expérience quand je suis arrivée au Québec. Et puis finalement, l'expérience a fait que j'ai travaillé dans un organisme famille qui travaillait dans le communautaire, où j'étais responsable d'un volet d'un département qui s'occupait de faire de l'intégration d'enfants à défis particuliers dans des groupes réguliers.
D'accord.
Puis de fil en aiguille, à la naissance de mon troisième enfant, j'ai décidé de prendre un poste de coordination. Et donc, j'ai travaillé donc, dans le communautaire parce que ça fait partie de mon système de valeurs.
Eh bien, bravo.
Voilà.
Vous savez, c'était peut-être une question un petit peu incongrue, mais c'est vrai que souvent, il y a énormément de gens, c'est parce qu'ils vivent eux-mêmes, la chose, entre guillemets, ils vivent eux-mêmes cette situation. Alors, voilà. Donc, maintenant, on fait connaissance un peu plus avec vous, Isabelle. Il y a des dossiers chauds.
Mm-hmm.
Dans le domaine. En ce moment, quels seraient les dossiers chauds sur lesquels vous travaillez?
Écoutez, on a fait une conférence de presse vendredi matin concernant le désengagement de l'État dans les personnes qui sont hébergées dans les ressources intermédiaires au Québec, qui est une grosse problématique où on se rend compte avec le temps qui passe. Puis ce n'est pas un dossier qui est nouveau, ce n'est pas un dossier qui est récent.
Non.
C'est pas un dossier qui va aller en s'améliorant avec le temps qui passe. On parle d'un vieillissement de la population,
important.
Donc on parle de personnes qui sont accueillies dans des ressources intermédiaires où les gens ne sont souvent pas formés. Puis il faut faire attention, puis je voudrais mettre un petit bémol en disant attention de ne pas faire de généralité.
Non.
Parce que les ressources intermédiaires, il y en a des très bonnes, avec des personnes qui sont bien formées. Où les jeunes ont des très belles prises en charge. Donc il faut faire attention quand même. Mais on parle de personnes qui souvent ne sont pas formées ou formées à minimum. Et comment accueillir des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, voire même des troubles graves du comportement, en n'ayant pas de formation?
Et notamment dans les écoles, justement, avec qui j'en parlais récemment, lorsque les élèves se retrouvent mélangés. Oui, peut-être que c'est tant mieux, mais comment font les gens qui n'ont pas été formés pour cela? Ils ont été formés pour enseigner, ils n'ont pas forcément été formés pour savoir comment se comporter avec des enfants autistes, enfin, entre autres.
Et puis, ça peut créer des situations dangereuses, dangereuses pour la personne qui est hébergée ou la personne qui est encadrée. Oui. Et puis, la personne qui encadre.
Exactement.
Et puis, la personne qui est sur le plancher. Parce qu'on parle de beaucoup d'arrêts de maladie, on parle beaucoup de dépression.
Exactement.
On parle beaucoup de blessures. Donc, tout ça, pour être pallié, ne serait pas arrangé à 100%,
oui,
bien évidemment, mais pour être pallié avec une formation adéquate.
Bien sûr, et on pense aussi à ce jeune garçon-là qui s'est fait arrêter, qui se retrouve avec 6 ou 8 chefs d'accusation, mmh, contre lui, alors que c'est un jeune autiste. On sait que souvent, ils ne peuvent même pas être touchés. Alors là, le fait d'être embarqué comme ça par des policiers, il a complètement perdu les pédales. Enfin,
c'est une situation qui est excessivement violente.
Excessivement
violente, je pense, aussi de tous les bords.
Bien sûr.
Et souvent, il mériterait d'avoir un accompagnement puis une formation aussi pour la police. Pour ça, ce serait extrêmement intéressant puis très, très pertinent.
Vous avez créé des outils, hein, je crois, Isabelle, qui sont fort pertinents, peut-être pour des gens qui ne savent pas quoi faire, qui sont démunis. Parlez-nous de ces outils qu'on peut trouver sur le web.
Absolument. J'étais venue l'année dernière présenter à notre jury doc que j'ai avec moi, qui est un guide pratique sur l'accès aux services sociaux et de la santé à l'attention des parents ou proches de personnes vivant avec une personne avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme,
oui,
qui a été créé par Maître Aude Exertier, qui est une avocate en droit de la santé.
D'accord.
Donc, on veut à l'Abditaide proposer des outils, puis on propose des soirées-conférences pour outiller nos membres, pour leur donner justement accès à leurs droits,
mmh,
pour pouvoir mieux se défendre, mmh, pour pouvoir mieux défendre leurs jeunes. Et puis ça, le JuryDoc, ça se voulait un outil qui soit extrêmement vulgarisé,
mmh,
un outil,
mmh,
qui puisse, mmh, mettre entre toutes les mains.
C'est ça.
Bah, dont les parents l'apportent. Là, faire des outils, c'est très bien, mais il faut que les parents et puis les personnes puissent se saisir de ces outils-là.
Quel genre d'outils, Isabelle?
Et bah, justement, nous, on a fait donc le JuryDoc, qui est,
oui,
donc qui est complètement disponible gratuitement sur notre site internet www.abditaide.com.
Alors, Abditaide, je vais tout de suite c'est vraiment l'acronyme,
oui,
pour Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement. Donc, cela donne APDITE. ED.
Absolument,
voilà,
tout à fait.
Et donc, puis je le dis assez doucement parce qu'il y a peut-être des gens, voilà, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas...
Absolument, c'est long, hein, comme nom. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une version audio pour les personnes, justement.
C'est vrai.
Et ça, justement, là, on est dans une accessibilité aussi universelle.
Bien
qui
sûr,
puisse se mettre à la portée du plus grand nombre.
Bien sûr,
c'est ça
pour
qui est très important.
Les personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Complètement. Complètement.
Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une autre mission ou d'autres services que vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez pouvoir nous parler, oui?
On propose une fois par mois des soirées, conférences ou de formations sur,
d'accord,
des sujets très pointus qui puissent également outiller nos membres. Donc, on en a quelques-uns. On vient d'en faire une sur les successions, qui est un sujet extrêmement,
d'accord,
important. Une autre qui aura lieu le 18 janvier sur la réalité des parents, tout ce qui est reconnaître les mécanismes pouvant amener à l'épuisement des familles et puis reconnaître les signes précurseurs d'un épuisement. On fait une soirée sur l'habitation le 24 janvier, qui est les différentes étapes de réalisation d'un projet résidentiel. Et puis, on termine notre programmation d'hiver le 8 février par une conférence sur la tutelle curatelle.
Et ça se passe où?
Ça se passe la plupart du temps dans nos locaux. Donc, on invite les personnes intéressées. Toutes ces conférences, je tiens à préciser qu'elles sont gratuites.
Elles sont gratuites.
Pour nos membres à nous. Puis, si vous souhaitez devenir membre à l'Abditaide, on vous organise... Communiquer avec nous,
d'accord,
par téléphone ou par courriel.
D'accord, donc abditaide.com, simplement.
Tout à fait.
Isabelle Molliel, le temps passe vite, hein? Mais vous, ne vous en faites pas, vous allez revenir à l'émission.
Avec plaisir.
Et puis, vous aurez l'occasion de nous parler d'autres services et d'autres missions. Et nous allons mettre ça aussi en ligne sur notre site internet. On vous remercie infiniment pour votre présence.
Merci de m'avoir aussi. Bonne journée.
Au revoir. Le point de service du Centre de traitement pour enfants d'Ottawa, le CTEO, qui est situé au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, le CHEO, recevra une enveloppe de 600 000 $ de la province afin d'agrandir ses locaux. Plus spécifiquement, ce financement ira à l'agrandissement des infrastructures où sont offerts les soins et les services aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers. Les travaux consisteront tout d'abord en l'ajout de 6 salles pour des soins spécialisés qui seront dirigés par des thérapeutes. Ces nouveaux espaces permettront d'accommoder les jeunes atteints notamment de paralysie cérébrale, de troubles congénitaux et de retard du développement. Par ailleurs, une une nouvelle salle offrant des programmes en français destinés aux enfants d'âge préscolaire verra le jour. Cette dernière permettra aux enfants francophones qui reçoivent un traitement d'avoir un lieu d'apprentissage et de jeu au sein de l'établissement hospitalier. C'est une nouvelle que j'ai pu vous communiquer grâce aux informations du journaliste Gilles Taillon. Ça, c'est une histoire qui n'est pas drôle et qui fait frémir, qui fait froid dans le dos, je vous le dis tout de suite, mais ça peut exister, même si c'est rare. C'est l'histoire effrayante d'Andrew Carthew, qui a raconté récemment le tabloïd britannique Daily Mail. Ce malheureux croyait d'abord souffrir d'une simple conjonctivite. Mais lorsqu'il a commencé à ressentir des douleurs importantes et une sensibilité à la lumière, à son œil, l'œil gauche, l'homme qui travaillait comme ambulancier s'est rendu à l'hôpital sans attendre. Et après plusieurs visites et tests, on lui a diagnostiqué une kératite amibienne. Et ça, c'est une pathologie rare qui survient lorsqu'un parasite se loge entre un ver de contact et l'œil. Ce parasite, l'amibe, commence alors à se creuser un chemin dans le globe oculaire et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur qui dit que la douleur est absolument hallucinante. Il a d'abord subi une greffe de la cornée, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et la seule chose à faire, c'était si on voulait freiner la progression de cette amibe, eh bien, ça a été de lui enlever littéralement l'œil gauche. Alors, attention, évidemment, on parle ici peut-être d'un problème d'hygiène, quoique de toute façon, cette amibe-là est très commune et elle prolifère dans les milieux d'eau douce. Autrement dit, le fait simplement de nettoyer sa lentille sous l'eau froide et de ne pas bien l'essuyer, ça peut être absolument suffisant. Oui, ça fait peur, et c'est excessivement rare, comme le dit l'article. Mais lorsque ça arrive, comme dirait l'autre pour vous, c'est du 100%. L'Association des centres d'urgence du Québec, l'ACUC, s'associe à ses partenaires canadiens pour souligner la journée de sensibilisation au texto au 911. Texto 911, ce service est offert aux personnes sourdes et ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole pour leur permettre de communiquer avec le service 911 par texto à partir de leur cellulaire. Le 1er décembre 2016 a marqué le premier anniversaire de l'arrivée de ce service au Québec. Les violences envers les femmes sont encore trop nombreuses. Alors, on en a parlé récemment à cette émission du 25 novembre au 6 décembre. Il en est question. On fait campagne et notamment le Y des femmes de Montréal fait activement campagne. Un des enjeux sociaux prioritaires pour le Y des femmes de Montréal est celui des violences faites aux femmes. Violences qui sont encore trop présentes dans la société. Voilà pourquoi l'organisme sera particulièrement actif pendant les 12 jours d'action pour l'élimination des violences envers les femmes. Il y avait une journée thématique le 30 novembre prochain, mais il y a encore bien d'autres événements qui vont se dérouler grâce et par l'intermédiaire du Y des femmes. Le mieux, c'est d'aller sur le site web carrément donc Y des femmes de Montréal pour avoir toutes les informations. Voilà, c'était Clotilde Sey qui animait pour vous les parts actualités du 6 décembre 2016. Merci d'avoir été là. Bonne journée. À demain, 11h30.